Mwanzoni mwanza uwe Mrukodo ya ti unde mutiwe
uwe. Radio Galère 88.4, c'est la fusion des cultures.
Here's a song that comes from Tanzania.
Bonjour, vous êtes à l'émission Livres et Amis du 25 septembre et nous allons vous lire le livre d'Heinrich Boll qui s'appelle La Grimace. J'ai pas réussi à savoir d'où venait le titre, hein, mais n'empêche, Heinrich Boll est un auteur très important dans l'Allemagne d'après la guerre. Il est né en 1917 et il est mort en 1985. C'est l'époque de la République d'Hannover. Auparavant, deux petites informations. Il y a, au moment où nous commençons l'émission, il y a à la Friche un atelier d'écriture théâtrale et c'est sur le thème de l'ailleurs. Non, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une manifestation. Mais c'est demain jeudi de 9h à 18h et c'est le studio La Réplique à la Friche chez nous, hein, et la Manufacture 2 qui se situe Allée des Échos. Ça sera le moment pour moi de regarder parce que je ne sais pas où sont ces allées. Enfin, de 12 à 13h, aujourd'hui, arrivée de cars. Quels sont ces cars ? Ce sont les cars du comité de la ligne des usagers et puis des cheminots, la ligne Perpignan-Villefranche qui est menacée. Ils arrivent à 13h et à 14h30, ils ont rendez-vous au tribunal de grande instance. Donc, 12h, gare Saint-Charles et 14h30, tribunal de grande instance. Et je reviens à notre auteur d'aujourd'hui, 1917-1985, c'est le temps. Et il est mort à Cologne en 85 et c'est l'époque, je vous l'ai dit, de la République d'Andenoir. On aura l'occasion de voir, c'est pas du tout son but, de voir que la flûte, je cherche le mot, pour éliminer les anciens nazis, là.
L'épuration,
voilà, l'épuration, comme a dit Annie Lacroix-Rise dans une conférence il y a 15 jours à Comaguer. Et l'épuration, elle dit carrément, il n'y en a pas eu. En tout cas, on voit qu'il n'y en a pas au niveau, on la voit très bien, au niveau de notre narrateur. Mais je le répète, ce n'est pas son sujet principal. Son sujet principal, c'est l'opposition des protestants allemands, qui sont majoritaires, et des catholiques allemands. Moi, je ne savais pas qu'il y avait tant de catholiques allemands que ça. Et c'est intéressant de voir comment il perçoit la mise en confrontation des deux communautés. Il a eu, je reviens à son parcours personnel, à Heinrich Boll. Son lycée, il va dans un lycée catholique. Ses parents protestants l'ont mis dans un lycée catholique. Et ce lycée catholique, pendant la guerre, a fait de ce qu'ils appelaient de la résistance passive. Et quant à lui, il a eu la possibilité, on ne sait pas comment, hein, je n'ai pas su comment, de ne pas intégrer les jeunesses hitlériennes. Mais tout de même, en 1939, il s'est engagé. Mais il supporte pas l'armée, il déserte et il rejoint ensuite l'armée avec un faux ordre de mission. En 1945, il est capturé par les Américains et il est libéré. Dès le 15 juin, il a été capturé en avril 1945. Il a été libéré rapidement après. Son livre « La Grimace », date de 1963, un an après un voyage qu'il a fait en Union soviétique, qui a d'ailleurs un écho dans le livre. Et dans le premier chapitre, on voit sa présentation de son héros, qui s'appelle Hans Schneier. Et Schneier, c'est un nom bien connu en Allemagne. On dit Schneier Lignite. La lignite, c'est une sorte de charbon. Et sa famille a fait fortune. Elle fait partie des industriels qui ont réussi à bien s'enrichir pendant l'occupation. Et on le voit dans son quotidien. Son quotidien, il est fait de transbahutage parce qu'il est clown. Et il a des contrats dans toutes les villes d'Allemagne. Et il fait la remarque que les hôtels dans lesquels il va sont de moins en moins beaux. Et puis, surtout, le deuxième point très important pour lui, Marie est partie. On voit un heurt violent avec son imprésario qui le traite de Machiavel. Et il vient de tomber... Voilà, c'est le début du roman. Il vient de tomber sur scène. Il avait trop bu. Et il évoque toujours l'absence de Marie qui le fait beaucoup souffrir. Et il est dans un appartement qui lui a été légué par son grand-père. Donc, il est au cinquième étage et l'appartement est entièrement de couleur rouille. Il y a tous les étages se sont vus attribuer une couleur. A remarqué, il accuse les catholiques de lui avoir pris Marie et il évoque, c'est le début du livre, une réunion des cathos. Alors, ce n'est pas n'importe quel catho, c'est les cathos progressistes, parce qu'il y a des progressistes et des conservateurs. Où il va avec Marie?
Je me suis toujours sentie attirée par le catholicisme, même le jour où, voilà 4 ans, Marie m'emmena pour la première fois dans un cercle catholique progressiste. Elle tenait à me présenter des catholiques intelligents, avec bien sûr l'arrière-pensée que je pourrais un jour me convertir, arrière-pensée commune à tous les catholiques. Dès les premiers instants, l'atmosphère me parut effroyable. Je traversais alors une phase très pénible de mon évolution professionnelle. J'avais 22 ans, à peine, et m'entraînais toute la sainte journée au métier de clown. Quoique mort de fatigue, je m'étais promis beaucoup de cette soirée, car je m'attendais à quelques joyeuses réunions avec fines victuailles et bon vin à gogo. Fauchés comme nous l'étions, Marie et moi, le vin et la bonne chère étaient rares. Et peut-être même danserait-on. Au lieu de quoi, on ne nous servit qu'une infâme piquette, et les choses se passèrent comme elles se passent sans doute lorsqu'un étudiant en sociologie est obligé de subir un professeur parfaitement rasoir. Ce fut épuisant, abusivement, monstrueusement épuisant. Pour commencer, une prière en commun, tout au long de laquelle je ne sus que faire ni de mes mains ni de mon visage. Je pense qu'on ne devrait pas soumettre un incroyant à une telle épreuve. Ils ne se contentèrent pas d'un pater ou d'un ave, ce qui m'eût déjà paru suffisamment pénible, car élevé dans la religion protestante, je ne suis pas habitué à la prière en commun. Non! Il s'agissait d'un texte élaboré par Kindle, d'un machin à programme. Et nous vous prions de nous donner la force d'être également justes envers les partisans de l'immobilisme et ceux du progrès, etc. Après quoi seulement on aborda le thème de la soirée, sur la pauvreté dans notre société. Ce fut l'une des soirées les plus pénibles de mon existence. Je ne peux arriver à croire qu'un entretien religieux doive nécessairement se révéler aussi épuisant. Oh, je sais bien, il est difficile de croire à une telle religion, résurrection de la chair et vie éternelle. Marie m'avait souvent lu des passages de la Bible. Il ne doit pas être facile de croire à tout ça. Plus tard, j'ai même lu Kierkegaard, lecture fort instructive pour un clown. C'était difficile sans doute, mais non harassant. J'ignore s'il existe des gens qui se brodent des napperons d'après Klee ou Picasso, mais il me sembla ce soir-là que, d'après saint Thomas d'Aquin, saint François d'Assise, saint Bonaventure et Léon XIII, mes catholiques progressistes se confectionnaient au crochet des pagnes destinés bien entendu à ne recouvrir aucune nudité, personne dans l'assistance à part moi, ne gagnant moins de 1500 marks par mois.
Voilà comment se présentent les cathos progressistes. À noter l'avalanche de noms propres d'auteurs chrétiens bien connus, et il n'en a rien à faire. Seul peut-être Kierkegaard a un peu de sympathie parce qu'il dit que c'est pénible, mais c'est quand même un auteur qui est intéressant. On va revenir un peu sur ses soucis d'argent, puisque ce qui le frappe le plus, c'est qu'il est le seul, avec Marie, à être pauvre dans cette assemblée. Page 25. Et oui, je l'ai rajouté parce que je me suis dit qu'il fallait insister sur le fait qu'il manquait beaucoup d'argent.
Mais je ressortis le cognac du réfrigérateur pour en boire une gorgée au goulot. Je ne suis pas un poivreau, mais l'alcool me fait du bien depuis que Marie m'a quittée. Je m'étais déshabituée des soucis d'argent et le fait de ne plus posséder qu'un seul marque sans la moindre perspective d'en gagner bientôt des quantités appréciables me rendait nerveux. La seule chose que j'aurais pu vendre, c'était ma bicyclette. Mais si je devais me décider à me produire dans des bastringues, l'engin me serait d'une grande utilité en me permettant d'économiser les frais de transport. Une condition était liée à la jouissance de mon appartement. Interdiction de le vendre ou de le louer. Cadeau typique de Richard, où il y a toujours quelque chose qui cloche. Je réussis à ne plus toucher à la bouteille de cognac, retourner dans la salle de séjour et ouvrir l'annuaire du téléphone.
Voilà, la soirée continue et on est au début du roman, mais à la fin, il en sera exactement au même point avec un seul marque en poche, même pas, parce qu'il trouve le moyen de le perdre. Et il faut dire aussi que dans son appartement, il a trouvé des fleurs sur la table du salon, le réfrigérateur plein, une bouteille d'alcool. C'est Monica qui s'en est occupée. Monica, qui est une jeune femme dont on ne sait rien du tout, sinon qu'elle va s'en aller, et qu'elle est aux petits soins, elle est aux petits soins pour lui. Il enchaîne avec des souvenirs de sa famille. C'est un groupe dont il faudra reparler parce qu'il compte beaucoup pour lui. Les repas en famille sont pour lui, quand il est jeune, quelque chose de pénible. Et il évoque aussi la mort de sa sœur qui est partie gaiement avec un groupe de femmes pour lutter désespérément contre l'avancée des Alliés, parce qu'ils sont pas loin de ils sont pas loin de Bonn, et le studio où il habite, c'est à Bonn. Et on voit là un principe de construction. Vous avez eu deux retours en arrière, un principe structurel de ce roman, deux retours en arrière, Marie, quelques années avant, quand ils étaient encore ensemble, et puis un souvenir quand il était beaucoup plus jeune dans sa famille. Et il a écouté un certain Brühl, qui déblatère contre ce qu'il appelle les judéo-yankees. Et lui, et pas d'idée politique précisément, hein, mais il n'aime pas voir son jardin envahi par les officiers allemands. Et un jour, en se battant avec ses camarades qui tenaient des propos antisémites, il a prononcé l'injure « cochon de nazi ». Et ça va pas se passer comme ça pour lui.
Et je l'accompagnais jusqu'au champ de tir où Herbert Kalik était en train de raconter l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans qui avait reçu la croix de fer de première classe quelque part au fin fond de la Silésie pour avoir démoli 3 chars russes à coups de grenades anti-chars.
Voilà.
L'un de mes camarades ayant alors demandé le nom de ce jeune héros, je lançais « Rubezahl ». Le visage de Herbert Kalik vira au jaune et il me cria « Sale petit défaitiste !» Je me baissai pour ramasser une poignée de mâche-fer et je le lui jetai au visage. Tous les garçons me tombèrent alors dessus, à l'exception de Léo qui observa une stricte neutralité.
Léo, c'est son frère.
Il pleura, mais ne me vint pas en aide, et moi, terrifié, je hurlai à la face de Herbert « Cochon de nazi !» J'avais lu ça quelque part, sur la barrière d'un passage à niveau. Je ne savais pas au juste ce que signifiait cette expression, mais je sentais qu'elle devait s'appliquer à la situation. Interrompant aussitôt la mêlée, Herbert Kalik prit une attitude très officielle. Il m'arrêta, m'enferma dans la remise au bout du champ de tir, au milieu des cibles et des poteaux destinés à baliser le terrain, et s'en fut convoquer mes parents, M. Brühl, mon professeur, et un membre du parti. Fou de rage, je hurlais en piétinant les cibles et criais aux garçons qui montaient la garde de l'autre côté de la porte « Cochon de nazi !» Une heure plus tard, on me traîna jusque dans notre salon où devait se dérouler mon interrogatoire. Hors de lui, M. Brühl ne cessait de répéter « Il faut extirper le mal à la racine, à la racine !» Et je ne sais toujours pas s'il entendait au propre ou au figuré. Je lui écrirai prochainement au centre de pédagogie pour lui demander des éclaircissements, simplement par amour de la vérité historique. L'homme du parti, un quelconque chef de groupe local du nom de Levenich, fit preuve de pondération. Il répétait sans cesse « Mais songez donc que cet enfant n'a pas même 11 ans !» Et parce qu'il produisit sur moi un effet apaisant, je répondis à sa question. Il voulait savoir où j'avais appris cette funeste expression. « Je l'ai lu, dis-je, sur la barrière du passage à niveau de l'Annabergstrasse. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a prononcé devant toi ? Je veux dire, tu ne l'as pas entendu verbalement ? Non. Cet enfant ne sait pas ce qu'il dit, intervint mon père en me posant la main sur l'épaule. » Brühl lui jeta un regard mauvais, puis se tourna anxieusement vers Herbert Kalik. Le geste de mon père devait lui paraître une manifestation de sympathie éhontée. Ma mère dit alors en pleurant de sa voix douce et bête « Il ne sait pas ce qu'il fait, il ne s'en rend pas compte, ou alors je serai obligée de le désavouer. »« Eh bien, désavoue-moi, dis-je. »
Voilà, il n'a pas peur. Et on voit apparaître rapidement le personnage de sa mère, qui est certainement le personnage du roman pour lequel il a le plus d'antipathie et de... qu'il critique énormément. Ensuite, dans cette soirée initiale, on le voit prendre une décision. Il va téléphoner pour taper les gens. Alors, sa famille, les copains du temps de l'école et quelques-uns dans le milieu artistique, mais pas beaucoup, parce qu'il est visiblement un clown pas très bien vu. Et sa mère, elle est devenue quelqu'un, tout d'un coup on se retrouve dans le moment présent, elle est devenue présidente d'un comité contre la discrimination, alors qu'elle était vraiment tout à fait raciste du temps des nazis. Et on voit comment, 5 ans après, les choses ont bien changé, mais l'épuration... Elle s'est pas faite. Les antagonismes sont là. Et il dit qu'il veut... En prenant son téléphone, il commence par sa mère. Et qu'est-ce qu'il fait ? Une très mauvaise plaisanterie. Il dit ici, Hans Scheyer, c'est Madame Scheyer, la présidente du comité patati. Et alors elle dit oui. Il dit, bien, je veux parler à votre fille. Or, Elisabeth, je l'ai déjà dit, elle est morte. Et c'est ainsi qu'il n'a pas peur de faire à sa mère une très très mauvaise plaisanterie, parce qu'elle est morte dans un bombardement alors qu'elle allait rejoindre des jeunes filles combattantes. C'est la fin de la guerre. Et qu'à ce moment-là, elle a disparu. Ça a été terrible pour eux. Et il fait aussi là des réflexions. Cela s'enchaîne. Avec cette chose terrible, cette épouvantable plaisanterie qu'il fait à sa mère. Et son père le lui reproche d'ailleurs plus tard. Et il fait des réflexions sur l'art et l'argent. Page 43.
Je prends les choses comme elles viennent et m'attends à finir dans le ruisseau. Marie a de toutes autres théories en tête. Elle me parlait toujours de messages. Tout est message, selon elle, même ce que je fais. Je suis à ma manière si serein, si pieux, si chaste, etc. C'est effrayant tout ce qui peut aller se nicher dans la cervelle d'un catholique. Ces gens-là ne peuvent même pas boire un verre de bon vin sans se livrer à toutes sortes de contorsions intellectuelles. Il leur faut à tout prix prendre conscience de ce que le vin est bon et des motifs qui le rendent tel. Pour ce qui est de la prise de conscience, ils n'ont rien à apprendre des marxistes. Quand il y a de cela quelques mois, j'achetais une guitare et annonçais à Marie mon intention de composer des chansons, paroles et musique, que je chanterais moi-même en m'accompagnant à la guitare. Elle parut horrifiée. Elle considérait la chose comme au-dessous de mon niveau. À quoi je répondis qu'au-dessous du niveau du ruisseau, il n'y avait guère que celui du canal. Mais elle ne comprit pas le sens de mes paroles et j'ai horreur d'expliquer mes images. Il n'y a qu'à les comprendre, sinon tant pis. Je ne suis pas exégète.
Voilà, j'ai transposé dans les relations entre Marie et Hans ce qu'il a dit au début de ce chapitre, c'est-à-dire qu'il n'est pas un artiste conventionnel. Et c'est pour ça qu'il est mal vu dans le milieu. Et ses parents voudraient lui faire faire des études. Ont voulu autrefois lui faire faire des études de comédien. Il n'a jamais voulu. Il veut être clown et il veut être que clown. Et on voit là comment il préfère les choses non conventionnelles, les choses fantasques, aux choses sérieuses, comme dit sa famille, qui permettent de gagner sa vie. On ne perd pas sa vie à la gagner. Hein. C'est ce qu'il pense. Et on va avoir après, j'ai remarqué, un très très long chapitre, sauf le grand chapitre de discussion avec son père. Eh bien, c'est le plus grand chapitre de ce livre. Et c'est la première nuit qu'il passe avec Marie. Il y aura deux moments. Il y a le moment où il se décide. Il est tout jeune, il a 18 ans. Et on voit comment il s'y prend. Il n'a jamais parlé avec Marie. Ce n'est pas du tout, vous allez le voir, une relation conventionnelle.
Quand la clarté du jour eut envahi la chambre, je pus constater combien leur misère était réelle.
Page 50 d'abord. Ça, c'est le réveil, excuse-moi.
À 7 heures, sachant que la séance de cinéma avait commencé, je gagnais la Goudenhausgasse.
Donc le père n'est pas là, il est parti au cinéma.
J'avais déjà la clé en main, mais la porte du magasin n'était pas encore verrouillée et à peine l'eus-je poussée qu'à l'étage, Marie passa la tête par-dessus la rampe de l'escalier en criant « Y a-t-il quelqu'un ?»« Oui, fis-je, c'est moi. » Je m'élançai dans l'escalier. Et elle me regarda avec surprise lorsque, sans la toucher, je la repoussai lentement dans sa chambre. Nous n'avions jamais beaucoup parlé ensemble. Nous nous étions le plus souvent contentés de nous regarder et de nous sourire. Et je ne savais même pas si je devais la tutoyer ou la vouvoyer. Elle portait un peignoir gris et limé, hérité de sa mère. Ses cheveux noirs ramassés en arrière étaient retenus par un cordonnet vert. Plus tard, quand je le dénouai, je m'aperçus que c'était un morceau de la ligne de pêche de son père. Elle était si effrayée que je n'eus pas besoin de prononcer un mot. Pardon. Elle savait exactement ce que je voulais. « Va-t'en, » dit-elle, mais elle le dit machinalement. Je savais bien qu'elle devait le dire, et nous savions l'un et l'autre qu'elle le pensait aussi sérieusement qu'elle le disait machinalement. Mais du seul fait qu'elle eût dit « Va-t'en » et non « « Allez-vous-en ?» La question était tranchée. Elle avait mis dans ce seul petit mot une telle tendresse que celle-ci me parut devoir me suffire pour le restant de mes jours. Et je me sentis sur le point de pleurer. À la façon dont elle le prononça, j'acquis la conviction qu'elle avait su que je viendrais. Je ne l'avais donc pas complètement prise au dépourvu. « Non, non, » dis-je, « je ne partirai pas. Où irai-je d'ailleurs ?» Elle secoua la tête. « Dois-je me procurer 20 marques, aller à Cologne et t'épouser plus tard ?»« Non, » dit-elle, « ne va pas à Cologne. » Je la regardai et ma peur disparut presque complètement. Je n'étais plus un enfant et elle était une femme.
Voilà. Et on va revenir au lendemain matin. Page 55.
Quand la clarté du jour eut envahi la chambre, je pus constater combien leur misère était réelle. Marie n'avait que 3 robes accrochées à la penderie, une vert foncé que j'avais l'impression de lui avoir vue sur le dos depuis un siècle, une jaunâtre très usagée et le petit ensemble bleu marine qu'elle portait toujours à la procession. À part cela, son vieux manteau d'hiver vert bouteille et 3 paires de chaussures seulement. L'espace d'un instant, je fus tentée de me lever et d'ouvrir les tiroirs de la commode pour examiner son linge, mais y renoncer aussitôt. Je crois que même mariée pour de bon avec une femme, je n'examinerai pas son linge. Il y avait déjà un bon moment que le vieux Derkoum ne toussait plus. Il était 6 heures passées quand Marie revint enfin de la salle de bain. J'étais contente d'avoir fait avec elle ce que depuis longtemps je désirais que nous fissions ensemble. Je l'embrassai et fus heureux de la voir sourire. Elle posa ses mains sur mon cou. Elles étaient glacées. « Que faisais-tu ? » lui demandai-je à voix basse. « Cette question, je lavais les draps ? » ?»« Je t'en aurais volontiers apporté des propres, mais nous n'en possédons que 4 paires, 2 sur les lits et 2 aux salles. » Je la tirai contre moi, la couvris de mon corps et enfouis ses mains glacées sous mes aisselles. Je me dis que c'était merveilleux, que ses mains étaient au chaud comme des oiseaux dans leur nid. Je ne pouvais tout de même pas donner les draps à Madame Hubert, dit Marie. C'est elle qui lave notre linge, et toute la ville aurait su à quoi s'en tenir. Je ne voulais pas non plus les jeter. J'y ai bien songé un instant, mais c'eût été vraiment dommage. Tu n'avais donc pas d'eau chaude ? Non, il y a belle lurette que le chauffe-bain est détraqué. Alors, brusquement, elle fondit en larmes, et comme je lui demandais pourquoi elle pleurait ainsi, tout à coup elle murmura. « Mon Dieu, je suis catholique, tu le sais bien. » Je lui dis alors que toutes les jeunes filles, même protestantes ou incroyantes, pleuraient probablement aussi dans ce cas-là, ajoutant que je savais même pourquoi. À son regard interrogateur, je répondis « Parce qu'il existe réellement quelque chose qui se nomme l'innocence. »
Voilà, vous voyez un trait caractéristique. Tout d'un coup, quelque chose de grave, le temps se fait extrêmement grave. C'est le chapitre d'ailleurs dans lequel on sent le plus le sentiment de Hans. On sait pas trop d'ailleurs ce que pense Marie. On ne le saura pas d'ailleurs de tout le livre. Après ce moment avec Marie, eh bien, qu'est-ce qui lui vient en tête ? C'est les souvenirs de sa mère. Sa mère, dont il dit, c'est une personne qui, quand on discute avec elle, dit « Nous n'avons pas la même vision des choses. » Ou bien, quand on lui demande quelque chose, « Je ne suis pas d'accord, mais je veux bien écouter vos remarques sur ce que je fais. » Autrement dit, quelqu'un de tout à fait neutre, il n'aime pas ça, lui. Et là, dans cette neutralité, figurez-vous que il la sent au téléphone. Elle dit, ma mère, elle ne sent rien, parce que il a cette possibilité de faire marcher son odorat en même temps qu'il prend le combiné et de sentir l'odeur de chacune des personnes. Et sa mère ne sent rien. Et au contraire, il fait la remarque, la maîtresse de son père, elle sent bon. Et à ce moment-là, il comprend mieux que son père est une maîtresse. Autre chose dans ses souvenirs, ce sont les souvenirs de famille, et là aussi c'est quelque chose qui est tout à fait pathétique. C'est le personnage de Anna. Anna, c'est la domestique de ses parents, la cuisinière.
Il y avait déjà 15 ans qu'elle était chez nous. Un de nos cousins pasteurs l'avait refilée à maman. Anna est de Potsdam. Et le seul fait que tout protestant que nous soyons, nous parlions le dialecte rhénan, lui paraît monstrueux, contre nature en quelque sorte. Je crois bien que si un protestant parlait bavarois devant elle, elle le prendrait pour le verbe incarné. Elle s'est peu à peu habituée à la rhénanie. Elle est grande, svelte et fière de se tenir comme une dame. Son père était économe d'une boîte dont je sais seulement qu'elle se nommait l'IR9. Inutile d'expliquer à Anna que nous ne faisions pas partie de cette IR9. Pour ce qui a trait à l'éducation de la jeunesse, elle n'a jamais qu'une seule formule à la bouche. À l'IR9, on n'aurait pas toléré ça. Je n'ai jamais réussi à savoir au juste ce qu'était l'IR9. Mais ce que je sais en revanche, c'est que je n'aurais jamais eu la moindre chance d'être admis dans cette mystérieuse maison d'éducation, pas même comme manœuvre balai. Ma méthode personnelle de toilette suffisait à elle seule pour qu'Anna invoquât l'IR9. Et quant à mon effroyable habitude de rester au lit jusqu'à la dernière minute, elle provoquait chez elle autant de dégoût que lui en eut inspiré la lèpre. Quand elle se retourna enfin et s'approcha de la table, sa cafetière à la main, elle garda les yeux baissés, telle une nonne servant un évêque quelque peu malfamé. J'eus pitié d'elle. comme j'avais pitié des filles du groupe de Marie. Son instinct de nonne lui avait certainement appris d'où je venais, alors que j'aurais pu être secrètement mariée depuis 3 ans sans que ma mère eût rien remarqué. Je lui pris la cafetière des mains, me servis du café, et la saisissant par le bras, l'obligeai à me regarder. Ce qu'elle fit, de ses yeux bleus pâles, en battant des paupières. Je m'aperçus qu'elle pleurait, pour de vrai.
Voilà, c'est un principe de l'auteur, Henrik Boll, c'est que les gens ne sont pas ce qu'on croit. Anna, qui ne fait que parler de la perte des valeurs germaniques, eh ben elle est capable de comprendre et de ressentir ce que le héros ressent après c'est une nuit où il a fait connaissance avec l'amour. Et c'est ainsi que on a maintenant, sauf que j'ai oublié Zupfner. Zupfner, c'est quelqu'un que Hans avait remarqué un jour par la fenêtre, parce qu'il se place beaucoup à sa fenêtre, il observe beaucoup, hein, ce monsieur. Et il avait vu Marie, main dans la main, avec ce Zupfner, qui était un catho progressiste. Et peut-être que le sentiment qu'il avait un rival l'a amené à avoir l'audace des timides et à aller presque violer Marie dans sa chambre. Et je reviens donc sur la présentation des personnages. Il y a donc lui et puis son Zupfner qui est son rival. Et puis, et que Marie va épouser bientôt. Ensuite, sa famille, les parents, il y a les maîtres, ces catho-progressistes surtout, et le groupe des camarades qui sont enrôlés dans des groupes, non pas les jeunesses hitlériennes, mais en tout cas des groupes de... On l'a vu avec leur réaction quand ils disaient « cochon de nazi », qui sont bien marqués par l'idéologie. Ensuite, il faut parler aussi du grand-père. Le grand-père, lui, c'est celui dont on imagine bien la richesse et l'autorité. Il est loin de sa famille, loin de son fils, qui est présentateur à la télévision. Mais de temps en temps, il réunit ce qu'il appelle les vieux garçons. Il les réunit pour un concours de tir, car ce sont des chasseurs, dans le parc de son fils. Et c'est ainsi que on voit dans cette grande bourgeoisie allemande qui est très 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 riche et qui n'a pas connu l'épuration. Il me reste à parler d'un autre personnage qui est important pour lui. C'est l'imprésario Zonerer qui va l'appeler au milieu de sa détresse, parce que il est tombé pendant une représentation. Hans, il s'est fait très mal au genou et Zonerer lui téléphone en lui disant que il faut qu'il s'arrête 6 mois. Mais lui, s'arrêter 6 mois, ça signifie ne pas avoir rien du tout. Est-ce que il touche cachet après cachet quand il a des représentations, et là, il le condamne à mourir de faim. Et c'est ainsi que on verra, avec à partir de là, ces tentatives désespérées d'avoir un peu d'argent. Et chaque fois, au lieu de parler d'argent, il demande s'ils ont des nouvelles de Marie, parce qu'il veut avant tout retrouver Marie. Et il ne veut pas. Marie le quitte, Marie l'a quitté, et c'est parce que, pense-t-il, il ne veut pas l'épouser. Parce que, oui, pour l'épouser, il aurait dû signer un papier comme quoi il élevait ses enfants dans la religion catholique, et il veut absolument pas. Et il va essayer de joindre Léo, son frère, et son frère... Il s'est converti au catholicisme. Ça va de mal en pis pour lui. Et il va dans un séminaire et il tombe sur quelqu'un qui a été mis de côté par les autres séminaristes et qui est privé de dessert parce qu'il a des idées subversives et il lui dit que ces messieurs sont en train de manger et que il peut pas lui passer son frère tout de suite. Il y a aussi un autre coup de téléphone avec Friedeble, il s'appelle Friedeble, et qui lui veut bien lui prêter de l'argent, mais il le regarde partir et au lieu de prendre le bus, Hans, qui est crevé, se précipite dans un taxi et il va payer son taxi 8 marques alors qu'on vient de lui donner 20 marques et que celui qui lui donne n'est pas tellement riche. Donc on va voir comment chaque fois il se débrouille pour ne mécontenter tout le monde. Et il est épuisé et c'est Zupner qui va s'expliquer. On va voir ça à la page 104.
Avec Marie, il n'y a jamais eu de problème, aussi longtemps qu'elle s'est fait du souci pour mon âme. Mais alors que vous êtes intervenus, vous autres, pour la persuader qu'elle devrait se préoccuper d'abord de la sienne, si bien qu'aujourd'hui c'est moi qui ne suis pas douée pour la métaphysique, qui me fait du souci pour l'âme de Marie. Si elle a épousé Zupner, c'est alors qu'elle a commis son premier vrai péché. Parce qu'il y a quelque chose de votre métaphysique que j'ai tout de même compris. C'est qu'en épousant Zupner, elle a commis un adultère, et ça donne à la fornication. Quant à votre prélat de Sommerville, il joue dans cette affaire un rôle de proxénète.
Voilà. Il va inverser complètement les choses par rapport à la vision conventionnelle des cathos, y compris des cathos progressistes. Il n'est pas dans l'adultère, puisque Marie est mariée, mais c'est elle qui est dans l'adultère parce qu'elle l'a quitté. On voit aussi, page 108, la dégradation de leur rapport.
Je vais aussi de temps à autre au cinéma, à la réflexion, j'y vais même assez souvent, mais uniquement pour voir des films non interdits aux moins de 16 ans. Marie n'a jamais pu comprendre cette préférence. Il faut dire que l'essentiel de son éducation catholique est à base d'enseignements psychologiques et rationalistes, assaisonnés de mysticisme du genre « faites-les jouer au football pour qu'ils ne pensent pas aux filles ». Ce qui, dans mon cas, ne m'a jamais empêché de penser volontiers à elle, jusqu'au jour où j'ai uniquement pensé à Marie. Je me faisais parfois alors l'effet d'un monstre. Si je vais de préférence voir les films non interdits aux moins de 16 ans, c'est parce qu'ils nous épargnent de piteuses décoctions pour adultes à base d'adultère et de divorce. Dans les films de divorce et d'adultère, le bonheur de quelqu'un est toujours en jeu. Rends-moi heureuse, mon amour. Ou veux-tu donc m'empêcher d'être heureux ? Un bonheur qui dure plus d'une seconde, mettons deux ou trois, je n'arrive pas à me l'imaginer. J'aime bien aussi des vrais films de putains, mais il y en a si peu. Et encore sont-ils en général si prétentieux qu'on ne remarque même pas que ce sont des films de putains. Sans doute existe-t-il des femmes qui n'entrent ni dans la catégorie des putains, ni dans celle des épouses, les femmes compatissantes. Mais on les néglige au cinéma. En revanche, dans les films non interdits aux moins de 16 ans, les putains foisonnent. Je n'ai jamais compris à quelles normes les commissions chargées de cataloguer les films se référaient pour ne pas interdire aux enfants les films de putains. Celles-ci le sont, soit par nature, soit uniquement sur le plan sociologique. Ce ne sont presque jamais des femmes compatissantes. Dans un quelconque saloon du Far West, de jeunes et jolies blondes dansent le cancan sous les regards concupiscents de rudes cow-boys, trappeurs ou chercheurs d'or, qui viennent de passer 2 ans dans la solitude à poursuivre des bêtes puantes. Mais quand ces mêmes cow-boys, trappeurs ou chercheurs d'or veulent suivre les jeunes et jolies blondes dans leur chambre, celles-ci leur claquent le plus souvent la porte au nez, à moins qu'une immonde brute ne se soit déjà chargée de les assommer sans pitié. J'imagine que cela est plus ou moins censé suggérer un concept de vertu. En réalité, c'est faire l'apologie de la cruauté, alors qu'en l'occurrence, la compassion serait bien le seul sentiment valable sur le plan humain. Rien d'étonnant, à ce que ces pauvres diables se mettent alors à se bagarrer et à se tirer dessus, comme au football de l'internat, mais en plus impitoyable parce qu'il s'agit d'adultes. Je ne comprends pas la morale américaine. J'imagine qu'aux USA, une femme compatissante serait brûlée comme sorcière pour peu qu'elle ne fasse ça, ni par amour du mal, ni pour de l'argent, mais uniquement par pitié pour la condition de l'homme.
Voilà comment il perçoit le cinéma, a remarqué alors, la charge sur les westerns, hein, et il parle de femmes compatissantes, et puis avant, ce qu'il dit des films de putains. Les films de putains, c'est des films où on voit d'honnêtes femmes se marier et avoir beaucoup d'enfants, comme il se doit dans les films bien pensants des années 60. Et lui, il n'a pas ça, mais alors pas ça du tout, du tout. Et c'est ainsi que Marie ne le comprend pas bien. Et on sent les relations de couple qui se dégradent, comme on sentait dans les lettres, dans le livre de Marie Ndiaye, que il commençait à avoir quelques doutes. À ce moment-là, il se voit allant au cinéma et au retour, il trouve Marie très pâle. Elle a eu une fausse couche et puis elle disparaît. Et là, il a la visite de la police des mœurs. Mais avant de voir un long coup de fil avec l'évêque et avec son père, oui, on se met de la musique. Galère, galère, on a choisi du Chopin parce que... Voilà notre Hans tout seul et qui n'a même pas le goût de se faire quelque chose à manger.
Je retournais dans la salle de bain, me frictionnais, me rhabillais, puis passant dans la cuisine, mis de l'eau sur le feu. Monica avait pensé à tout. Il y avait des allumettes sur le fourneau à gaz, du café moulu dans une boîte étanche, des filtres en papier et dans le réfrigérateur, du jambon, des œufs et des légumes en conserve. Je ne mets volontiers la main à la pâte que lorsque c'est ma seule chance d'échapper à certaines formes de bavardage entre grandes personnes. Quand Somerville entreprend de discourir sur Eros, quand Blotter crache son ça-ça capitaliste, ou quand Fredeble se lance dans une conférence, à droite compilation sur Cocteau, je préfère me réfugier dans la cuisine pour y presser des tubes de mayonnaise, dénoyauter des olives et étendre du pâté de foie sur des petits pains. Mais quand c'est pour mon seul usage qu'il me faut préparer n'importe quoi dans la cuisine, je suis perdue. La solitude me rend maladroit et la nécessité d'ouvrir une boîte de conserve ou de casser des œufs dans la poêle me plonge dans des abîmes de mélancolie. Je n'ai rien d'un célibataire. Quand Marie était malade ou partait à son travail, pendant quelque temps à Cologne, elle tint un emploi dans la papeterie, ça ne m'ennuyait pas tellement de m'occuper de la cuisine. De même que quand Marie fit sa première fausse couche, je lavais les draps avant le retour de notre logeuse partie au cinéma. Je réussis à ouvrir une boîte de haricots sans m'entailler la main et verser de l'eau bouillante sur le filtre tout en pensant à la maison de Zupfner, catholique à la maison que Zupfner s'est fait bâtir. J'y suis allée une fois, il y a 2 ans.
Voilà comment il supporte, vous le voyez, très mal la solitude, et on voit à quel point la vie de ce couple est précaire. Ça nous fait penser au précaire de maintenant, hein. Et de même, cette morale qu'il présente comme une morale catholique, mais qui est aussi bien une morale laïque, qui consiste à faire du sport aux jeunes pour pas qu'ils pensent au sexe. Et moi, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue dans mon lycée, où il fallait savoir que faire des élèves quand, dans le temps libre, entre midi et 2 heures. Et tout le monde voulait... La plupart des gens voulaient qu'on leur donne des choses à faire, qu'il y ait des ateliers avec des choses à faire et des rapports à rendre et puis, ou des choses à proposer. Et on était quelques-uns à dire non, on voudrait justement un moment pour ne rien faire. Et c'est comme quoi, ce qui est présenté comme l'époque d'Adenauer et les catholiques allemands, et ben ce sont maintenant les laïcs qui l'ont pris à leur... idée. Et la déchéance de notre Hans continue. Sa mère va le déshériter. Et puis, le père, lui, est venu. Il lui parle de Jeune Holm. Qui c'est Jeune Holm? C'est quelqu'un qui est un critique littéraire bien connu à l'époque. Comme il dit, il a toujours le meilleur qui existe sous la main. Et sa mère est persuadée. Et il dit que il gagne 1000 marques par mois. Ce serait déjà bien s'il acceptait ce que lui propose Jeune Holm, c'est-à-dire une formation de comédien, parce qu'être comédien, c'est quand même mieux qu'être clown. Et là-dessus arrive le fait que sa mère le déshérite, et c'est là. Il compare avec sa logeuse, qui ne comprend pas comment il fait la grasse matinée. Et voyons comment sa mère voit les choses pour le déshériter. Ce qui est quand même contre nature. Hein. Page 175.
Plus tard, ma mère alla jusqu'à m'écrire qu'elle m'avait déshérité. Son manque de tact confine parfois à l'idiotie. Elle avait tiré sa formule d'un roman de Schnitzler intitulé « Cœur divisé ». On voit dans ce roman une jeune fille que ses parents déshéritent parce qu'elle refuse de mettre au monde l'enfant que lui a fait un artiste à l'âme noble mais faible. Quelque acteur, je crois. Ma mère citait textuellement une phrase du 8e chapitre du roman. « Ma conscience m'oblige à te déshériter. » Elle avait dû trouver la formule parfaitement appropriée. Quoi qu'il en fût, elle me déshérita. Je suis persuadée que ce n'était pour elle qu'un moyen de protéger sa conscience en même temps que son compte en banque. Mes parents s'attendaient que pour nourrir ma maîtresse, je menace une existence héroïque, ouvrier d'usine ou du bâtiment. Je n'en fis rien et leur déception fut amère. Léo et Anna, eux-mêmes, ne me cachèrent pas leur désillusion. Tous me voyaient déjà partant à l'aube nantis d'un casse-croûte et envoyant un dernier salut vers la fenêtre de Marie, puis revenant le soir harasser mes contents pour lire les journaux en regardant Marie tricoter. Or, je ne fis pas le moindre effort pour concrétiser cette vision. Je restais auprès de Marie, et Marie préférait de beaucoup m'avoir auprès d'elle. Je me prenais alors vraiment pour un artiste, beaucoup plus que par la suite, et nous réalisâmes les idées puériles que nous nous faisions du genre bohème en accrochant au mur des bouteilles de Chianti, de la toile de jute et des bouts de tissu de toutes les couleurs. Aujourd'hui encore, je rougis d'émoi chaque fois que je repense à cette époque-là.
Voilà comment il vit sa vie de personnage issu d'une grande famille, mais complètement sorti de son milieu. Seulement, il n'a visiblement rien trouvé d'autre. Et il va aller trouver Bella, qui est la maîtresse de son père, qui lui dit je peux rien faire pour toi. Quelquefois, il me donne un peu d'argent pour dépanner des jeunes gens pauvres et je pourrais peut-être te donner ça, mais en attendant, elle ne donne rien du tout. Il y a aussi la question des chèques barrés. Le grand-père lui envoie quelquefois un chèque barré de 20 euros et une seule fois 22, il ne sait pas pourquoi. Seulement, il ne sait pas faire pour toucher les chèques barrés et c'est très incommode pour lui. Alors, même quand on veut l'aider, eh ben, il est difficile de l'aider. Et il se souvient aussi de l'avarice de sa famille qui a beaucoup d'argent, mais qui laisse ses enfants crever de faim. Et notamment, il dit quand je revenais de faire du sport, j'avais pas envie de manger, j'avais faim, il n'y avait pas grand-chose dans l'assiette. Et notamment, sa mère supportait pas qu'il y ait des pommes de terre. Et alors, les domestiques se faisaient des pommes de terre en robe des champs avec du beurre quand les parents étaient partis. Et ils invitaient les enfants à venir dans la cuisine pour manger les pommes de terre. En revanche, alors, Marie avait une vision toute différente de l'argent. Dans sa famille, on ne parlait pas d'argent et on était avare. Mais Marie, elle, eh bien, elle avait toute une autre façon de concevoir l'argent, page 224.
Dans les mains de Marie, l'argent allait jusqu'à perdre son caractère de précarité. Elle avait l'art de le manier avec négligence et grand soin tout à la fois. Comme je refuse par principe les chèques et autres modes de paiement, on me versait toujours mes honoraires en espèces, si bien que nous n'avions pas à nous soucier de faire des prévisions de dépenses à plus de 2 jours d'échéance, 3 au maximum. Car Marie donnait de l'argent à tous ceux, ou peu s'en faut, qui lui en demandaient et parfois même à ceux qui ne lui en demandaient pas, pour peu qu'au cours de la conversation, elle découvrit qu'ils en avaient besoin. Un jour, à Göttingen, elle donna ainsi à un serveur de quoi acheter un manteau d'hiver à son gamin qui allait faire sa première année d'école. Et dans le train, elle payait sans arrêt des suppléments pour les grands-mères désemparées qui, allant à un enterrement, venaient se fourvoyer dans notre compartiment de première classe. C'est fou le nombre de grands-mères qui prennent le train pour se rendre à l'enterrement d'un enfant, petit-enfant, belle-fille ou gendre, et qui, jouant sans doute les grands-mères affolées, se laissent tomber, encombrées de lourdes valises et de paquets bourrés de saucissons, de lard et de gâteaux, sur la banquette d'un compartiment de première classe. Bien que, de toute évidence, la mémé n'eût en poche qu'un billet de seconde. Marie m'obligeait alors à caser ses lourdes valises et ses paquets dans le filet à bagages, et avant même que quiconque eût attiré l'attention de la mémé sur son erreur, Marie sortait dans le couloir où elle réglait la question avec le contrôleur. Auparavant, elle avait pris la précaution de demander son billet à la mémé et aussi où elle allait, pour enterrer qui, ceci afin de payer le supplément idoine. Les commentaires d'Edith grand-mère se résumaient en général à quelque aimable propos du genre « La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas aussi mauvaise qu'on veut bien le dire. » Et leurs honoraires à quelques énormes sandwichs au jambon.
Voilà encore un beau souvenir de sa vie avec Marie, qui, hélas, je dis hélas parce qu'il est désespéré, ne va pas durer longtemps. On se demande pourquoi elle l'a quitté. Elle devait non plus pouvoir le supporter, un bonhomme comme ça. C'est la remarque très, très, très terre à terre que je fais. Alors, nous allons maintenant avoir de sa part une récapitulation, parce que c'est la fin de la soirée et il va faire des réflexions sur là où il en est avec son unique marque, puisqu'il n'a plus rien, il n'a plus d'argent. Page 243. Je ne l'ai pas marqué, c'est mon habitude.
Je savais aussi que je ne ferais rien de tout ceci. Je n'irai pas à Rome m'entretenir avec le pape. Je n'irai pas demain après-midi au jour fixe de ma grand-mère faucher des cigarettes et des cigares, ni me remplir les poches d'amandes salées. Je n'avais même plus la force d'y croire, comme je croyais avoir scié du bois avec Léo. Chacune de mes tentatives pour renouer mes fils de marionnettes et m'y cramponner était d'ores et déjà vouée à l'échec. Je finirai par en être réduit à taper Kindle, Sommerfield et même ce sadique de Fedeble qui brandirait probablement un billet de 5 marques à bout de bras afin de m'obliger à sauter pour l'attraper. Je serais heureux que Monica Silves m'invita à prendre le café, non point parce que c'était Monica Silf, mais à cause du café gratuit. J'appellerai de nouveau la stupide Bella Brosen, m'insinuerai dans ses bonnes grâces et lui promettrai de ne plus l'interroger sur le montant de la somme en l'assurant qu'elle serait la bienvenue, quelle qu'elle fût. Et puis, un jour, j'irai chez Somerville lui prouver, de façon convaincante, que j'étais repentant et mûr pour la conversion. Et c'est alors que viendrait le pire, la réconciliation avec Marie et Zupfner, mise en scène par Somerville. Mais si je me convertissais, mon père ne ferait probablement plus rien pour moi, car ce serait à coup sûr pour lui la pire des calamités. La question méritait réflexion. Je n'avais pas à choisir entre le rouge et le noir, mais entre le brun foncé et le noir, Lilith ou l'Église. Je deviendrais ce que tout le monde attendait de moi depuis si longtemps déjà, un homme mûr, objectif et non plus subjectif, prêt à taper la carte dans un club de skat. J'avais encore quelques atouts, Léo, Heinrich Behlen, grand-père et Zonerer, qui réussiraient peut-être à me lancer comme guitariste à la Guimauve. Je chanterai « Quand le vent joue dans tes cheveux, tu es à moi, je le sais ». Je l'avais déjà chanté à Marie, qui s'était bouché les oreilles en déclarant que c'était abominable.
Voilà, il a échafaudé des projets fous de refaire sa vie avec Marie, de retrouver ses amis. Et la dernière chose, c'est la réconciliation avec Somerville. Somerville, c'est l'évêque. On ne vous en a pas encore parlé parce qu'on avait une indigestion de Cato. Et tout cela ne peut pas se produire. Il est vraiment dans l'impasse et il va décider d'aller pousser la chansonnette. Vous avez entendu le genre de la chansonnette. Dès le lendemain, à la gare, assis sur les marches, il est devenu un SDF et il a pris son chapeau qu'il servait pour Chalot, il le retourne pour que les gens y mettent des piécettes. Il n'a même plus son marque pour mettre une piécette, mais il met sa dernière cigarette. Et il est tout étonné que quand quelqu'un, eh ben, bel et bien, lui met une pièce dans son chapeau retourné. Voilà, il était, dès le début, il disait que c'était le ruisseau. Eh ben, il est dans le ruisseau. En plus, il a une grande pluie et il est trempé. Galère, galère. Il est 57 à la porte de Radio Galère. Aïcha nous fait signe que c'est le moment de laisser la place à Yves. Et nous vous disons à bientôt. Roho yangu.